Tout de suite, sur France Culture, du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coups humains, un thème, 4 épisodes, et le documentaire devient feuilleton. Cette semaine, des rediffusions pour prendre des nouvelles du Portugal, aujourd'hui, un documentaire d'Elsa Cornevin réalisé par Anne Fleury. Au départ de cette série, il y a un jour de printemps 1974 et des brassées d'œillets. Un 25 avril où tout redevenait possible après 48 ans sous le boisseau. 48 ans de peur et de contraintes. Une journée de 1974 où tout était à réinventer. Un printemps où les exilés sont rentrés et où l'on pouvait de nouveau chanter dans la rue et marcher tous ensemble au grand jour. Le Portugal a une longue histoire, une histoire dont les échos ont résonné avec force en 2013 quand on a imposé au pays une politique d'austérité qui a mis des habitants à genoux, mais qui a ravivé le souvenir de ce printemps où tout était possible au point de ressortir slogans, espoir, colère et banderoles. Alors pour commencer les personnages, un militaire pacifiste, une comédienne engagée qui n'en peut plus d'être jeune, un policier qui compte les suicidés, un autre qui rejoint les manifestants, des étudiants qui ne veulent pas s'exiler, un candidat, un ministre en difficulté et des activistes. Ensuite le décor, le rêve d'être heureux, celui de vivre et travailler dans son pays, une chanson en bandoulière, des pancartes, des envolées, l'Union européenne et ses plans de sauvetage, des salaires, des retraites en chute libre et au fond un peu d'espoir. Aujourd'hui, deuxième épisode, on reste à Lisbonne.
Onde é que está a Troika nesta altura?
Troika.
Onde é que está a Troika nesta altura?
Troika.
Onde é que está a Troika nesta altura?
Troika.
Onde é que está a Troika nesta altura?
Está feliz o governo, está feliz a Troika.
Onde é que está a Troika nesta altura?
Troika.
Le 2 mars 2013, près d'1 million de personnes défilent dans les rues de Lisbonne, de Porto, de Coimbra. On n'avait plus vu une telle mobilisation depuis la révolution des œillets, en 1974. Ce jour-là, le slogan « 25 de abril sempre », 25 avril toujours, est crié par la foule. Et l'hymne de la révolution, « Grandola Vila Morena », est entonné d'une seule voix par des milliers de personnes, suscitant une vive émotion à travers le pays. Le plan de sauvetage, accordé au Portugal en 2011 par la Troïka, c'est-à-dire la Commission européenne, le FMI et la Banque centrale européenne, a impliqué des coupes budgétaires sévères dans tous les secteurs de la société. Le chômage a augmenté, les salaires ont fortement diminué et l'émigration économique est redevenue une réalité. L'indignation, la colère et la peur gagnent la société. 40 ans après la révolution des œillets, les conquêtes sociales du 25 avril sont remises en cause. Les générations les plus anciennes se souviennent d'une époque remplie d'espérance et appellent à la résistance, tandis que les jeunes générations sont de nouveau confrontées au dilemme de l'immigration ou de la précarité.
25 d'avril sempre.
Teresa de Souza est journaliste, spécialiste des questions européennes. Elle fait partie de la génération de la Révolution. Elle a publié un ouvrage en 2011 avec Mario Soares, l'ancien président de la République, évoquant les sorties de crise possibles. Teresa de Souza, bonjour. Vous êtes rédactrice en chef au journal Publico, ici, dont le siège est à Lisbonne. Est-ce que vous pouvez donc nous expliquer, en 2011, pourquoi le Portugal a-t-il été contraint de négocier un plan de sauvetage de 78 milliards d'euros ?
Bon, le programme qu'on a négocié avec la Troïka, la Banque Centrale Européenne, la Commission et l'FMI, évidemment aussi avec les leaders des pays européens dans le Conseil européen, surtout l'Allemagne qui maintenant, je crois, que décide presque tout ce qu'on doit faire en Europe. Le programme, quand on le regardait, le programme qu'on a signé en mai 2011, c'était un programme qui semblait presque raisonnable parce qu'il avait deux parties. Une partie qui s'est on doit faire les réformes structurelles qu'on n'a pas fait avant. Et après, il y avait l'autre côté qu'on n'a pas compris immédiatement l'impact sur la société et l'économie portugaise qui était l'obligation de réduire le déficit budgétaire de presque 10% en 2010, en 2011, jusqu'à 3%, le valeur des critères de Maastricht, en 3 ans. Et ça a été vraiment le problème. Si on a eu un peu plus de temps pour faire ça, et en même temps, on fait les réformes qu'il faut faire, peut-être on arrivait plus vite à une consolidation des finances beaucoup plus soutenable que ce qu'on fait maintenant. Ça veut dire que le gouvernement, pour plaire aux institutions européennes, je veux dire à la Troïka, a fait des coupes brutales dans les salaires des fonctionnaires publics, dans les pensions des retraités. Il a vraiment augmenté les impôts d'une façon que les revenus des gens et des entreprises ont vraiment diminué. Alors, ça veut dire que la consommation domestique a tombé. Il y a eu des milliers d'entreprises, petites entreprises, comme les petits cafés, comme les petits boutiques, tout ce genre de boulot qui fonctionnait assez bien et qui donnait de l'emploi aux gens. Alors, l'économie a beaucoup souffert. La récession était en 2011, 2012 et même en 2013 très forte. C'est pourquoi tout le monde a dit que ça a été un programme de la Troïka mal pensé, parce que ses effets étaient beaucoup plus grands, beaucoup plus dramatiques en termes économiques et sociaux qu'on imaginait au début des programmes. C'est ça le problème. Couper, couper, couper. C'est très facile de réduire le déficit. C'est une question mathématique, arithmétique. Le problème est que la vie des gens n'est pas arithmétique, n'est-ce pas? Évidemment, pour ma génération et une génération un peu plus vieille que moi, qui était une génération de résistance, qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour faire tomber le régime et qui avaient tous les espoirs. Pour cette génération, moi inclus, c'est très dur de voir ça. On n'a pas imaginé, ni moi, ni les gens comme moi, qu'à un moment donné, le rêve européen et ce développement extraordinaire qu'on a eu allaient contre le mur et on allait vivre une situation tellement difficile pour nous et tellement difficile pour l'Europe, parce que la crise n'est pas seulement portugaise. Et il y a cette question qui est, quelle est l'Europe qui va émerger de cette crise? On ne sait pas. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui le sache, mais on ne sait pas. Au Portugal, on ne voit pas un objectif clair pour ces sacrifices.
No céu cinzento, sob o astro mudo, batendo as asas pela noite calada, vêm em bandos com pés de veludo, chupar o sangue fresco da manada. Eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. No chão do medo tombam os vencidos, ouvem-se os gritos na noite abafada, jazem nos fossos vítimas de credo e não se esgota o sangue da manada.
Vasco Lourenço est une des figures de la Révolution. Il a été, au sein du mouvement des forces armées, un des capitaines d'avril qui a participé à l'organisation du coup d'État militaire du 25 avril 1974. Il a occupé par la suite de hautes fonctions au Conseil national de la Révolution. Il est aujourd'hui président de l'Association du 25 avril, une association civique et culturelle fondée par des militaires dont l'objectif est de promouvoir les valeurs et les idéaux du 25 avril. Quelles ont été les conquêtes du 25 avril? Vous avez participé activement dans les gouvernements après le 25 avril. Et quelles ont été les conquêtes du 25 avril?
La liberté. La liberté. No 25 d'avril,
le 25 avril,
de repente, as pessoas acordaram
tout à coup, les personnes se sont réveillées libres.
Acordaram livres, porque havia uma situação
parce qu'il y avait au Portugal une situation terrible.
O fascismo não era muito violento,
le fascisme, en apparence, semblait ne pas être très violent. Il y avait des personnes qui résistaient à la dictature, mais la plus grande partie de la population ne résistait pas. Les gens subissaient la dictature comme s'il n'y avait pas d'autre solution et la vivaient comme une fatalité.
Les personnes, une fois libres, perceberam que podiam lutar pelos seus ideais e pelos seus.
Après le 25 avril, une fois libre, les gens ont compris qu'ils pouvaient se battre pour leurs idéaux et pour leurs intérêts. D'ailleurs, le fait que la population descende immédiatement et massivement dans les rues et fasse exactement le contraire de ce que nous, militaires, avions demandé, a été extrêmement important. La pression du peuple nous a poussés à adopter des positions plus progressistes. Après le 25 avril, les gens ont commencé à participer intensément à la vie civique et politique. Le pays a connu un bond très important en matière de justice sociale, avec notamment l'introduction du salaire minimum des 13e et 14e mois, du droit au congé payé, du droit à la santé. Le service national de santé a été créé et est devenu un des meilleurs systèmes de santé d'Europe, mais il est maintenant en train d'être détruit. Les gens qui sont au pouvoir actuellement au Portugal agissent comme s'ils étaient les héritiers de ceux qui ont été vaincus au 25 avril, ceux qui avaient les privilèges et qui ont perdu. Et d'ailleurs, ce n'est que comme ça que je peux comprendre les positions du président de la République portugaise, des dirigeants portugais et en premier lieu de notre Premier ministre. Toutes les conquêtes du 25 avril sont en train d'être détruites, même si la situation au Portugal est bien meilleure aujourd'hui que celle que nous avions en 1974, il n'y a pas de comparaison possible. Je suis convaincu que nous allons assister à des révoltes populaires. Ce qui se passe actuellement au Portugal est en train de se dérouler également dans d'autres pays européens. Et c'est pour ça que je suis convaincu que la révolte risque de mener à de grandes convulsions, voire à une guerre. Je dois vous avouer que je ne suis pas du tout tranquille parce que, en dépit d'être militaire, je suis avant tout un homme de paix et ça ne me plaît pas du tout d'anticiper une guerre. Mais si elle devait arriver, je ne serais pas étonné. Je continue pourtant de penser que la démocratie est le moins mauvais des systèmes. Mais nous devons agir pour que la démocratie se pratique et qu'elle ne se limite pas aux élections. C'est évident que cette année, nous avons plus de raisons de juger hypocrite le fait que le pouvoir actuel annonce sa volonté de commémorer le 25 avril. Il y a 2 ans déjà, et l'an passé également, nous avons refusé l'invitation pour participer aux commémorations officielles du 25 avril qui se sont déroulées à l'Assemblée de la République. Mais de notre côté, à l'association du 25 avril, nous avons prévu un important programme de festivités. Et dans ce programme, nous cherchons à impliquer la population dans l'ensemble du pays. Nous encourageons les gens à débattre de leurs problèmes afin que des solutions puissent émerger. Cette année, notre mot d'ordre pour les commémorations est « vaincre la peur, réaffirmer avril, construire le futur ».
Réaffirmer avril, construire le futur.
On se trouve actuellement dans l'association du 25 avril. On a pu rencontrer donc Vasco Lourenço, le président de l'association. Como é que se chama este...
Os almoços, posso dizer, chamam-se os animados, almoços animes.
Les déjeuners animés avec de l'énergie permettent chaque mercredi, dans le cadre de cette association, d'organiser véritablement un débat public, un débat de société. Et aujourd'hui, c'est la présidente de l'association des retraités qui va faire une intervention. Il y a à peu près une 60aine de personnes dans cette salle et l'intervention commence à présent.
Le nom de notre association, c'est APRE, mais elle pourrait très bien s'appeler colère ou ras-le-bol. Parce que nous en avons vraiment assez. Et âpre, c'est âpre, avec un point d'exclamation pour dire basta. Parce que nous en avons vraiment marre de tout ce qui se passe actuellement. Et je n'ai pas peur de prononcer ces mots. Nous sommes en ce moment soumis à un véritable vol légalisé. C'est du jamais vu dans l'histoire de la démocratie. Nous commémorons cette année les 40 ans du 25 avril et nous assistons à la pire attaque contre l'État social depuis l'avènement de la démocratie. Alors je pose la question, si l'État social est attaqué aussi violemment, comme c'est le cas actuellement, la démocratie n'est-elle pas elle aussi en péril ? Avril a soulevé de l'espoir, a créé de la solidarité et a diminué les inégalités. N'était-ce pas d'ailleurs pour la justice sociale que nous nous sommes battus ? Je m'appelle Maria do Rosário Gama, j'ai 65 ans et je suis présidente de l'association APRE, une association de retraités. Nos actions sont de nature politique. Nous exerçons des pressions sur le pouvoir. Il y a trois jours, nous avons organisé un rassemblement en face de l'Assemblée de la République et nous avons remis une pétition à la présidente ainsi qu'aux parlementaires de l'opposition. Nous avons des parapluies, des bonnets, des t-shirts sur lesquels il est écrit « Nous ne sommes pas à mettre à la poubelle ». J'ai mon parapluie avec moi si vous voulez le voir, il est là. C'est un mot d'ordre pour dire que nous sommes toujours vivants, que nous votons et que nous avons beaucoup contribué au développement de notre pays. À présent, le pays est en train de régresser et nous ne pouvons pas accepter qu'il nous traite comme des déchets. L'État a procédé à des coupes sombres dans les retraites et l'effet a été particulièrement violent pour ceux qui touchent des petites retraites. Par exemple, un retraité qui percevait 500 euros environ par mois reçoit aujourd'hui à peine 300 euros. Et quand on sait que près de 90% des retraités touchent moins de 500 euros par mois, cela montre bien la gravité du problème, parce que nous sommes 3 millions de retraités sur 10 millions d'habitants. Nous avons cotisé toute notre vie sur la base de nos salaires. Et le montant des retraites a été calculé à partir de la législation en vigueur. C'est pour ça que nous n'acceptons pas qu'un gouvernement aujourd'hui vienne nous retirer ce qu'il nous doit. Aujourd'hui, il y a même des cas où certaines personnes qui sont en maison de retraite doivent aller vivre chez leurs enfants. Quand leurs enfants sont au chômage, n'ont pas de revenus, leur retraite devient le seul revenu du foyer. Le chômage maintenant au Portugal est très important, vraiment très important. Et de surcroît, beaucoup de ces retraités ont encore à leur charge leurs propres parents. C'est donc une génération qui est amenée à soutenir parfois non seulement les enfants et les petits-enfants, mais également leurs propres parents.
Depuis que le Portugal est sous assistance, de nombreuses voix s'élèvent de tous les côtés pour dénoncer les effets de l'austérité. Dans le cadre de la Conférence nationale pour un Portugal souverain et développé, qui s'est tenue à Lisbonne en février 2013, la comédienne Joana Manuel est invitée à intervenir. Et dans les mois qui suivent, son discours est un des plus partagés sur Internet.
Je peux vous dire qu'il y a une semaine, quand on m'a demandé de venir ici pour faire une intervention qui engloberait les problèmes des jeunes, de la précarité et de l'immigration, ma réaction était celle qui tend à devenir commune face à cette étiquette. Je suis encore considérée comme jeune, et qui en a décidé ainsi? Il est vrai qu'au fur et à mesure que j'ai grandi, la notion de jeune s'est mise à se dilater dans le temps. D'abord la carte jeune jusqu'à 30 ans. Si à 15 ans, on m'avait dit qu'à 30 ans, on était encore jeune, ça m'aurait fait rire. Et puis l'idée est venue selon laquelle une licence ne vaut rien sans une maîtrise, qui elle-même ne vaut rien sans un troisième cycle, et que tout cela ne vaut rien sans une batterie de stages non rémunérés parce que de toute façon, l'expérience n'est jamais suffisante, parce qu'après tout, on est très bien chez nos parents. Si à 15 ans, on m'avait dit qu'il faudrait que j'attende mes 24 ans pour vivre dans mon propre logement,
Eu ria-me.
Ça m'aurait fait rire.
Et
aujourd'hui, à 36 ans, je me rends compte que beaucoup de gens de mon âge n'ont jamais eu leur propre espace, ou que nombreux sont ceux qui l'ont déjà perdu.
Pois é, mas eu tenho 36 anos.
C'est vrai, j'ai 36 ans.
Jovem.
Et je suis jeune.
A dureza da vida e a precariedade.
La dureté de la vie et la précarité ont fait de nos parents et de nos grands-parents des adultes avant l'âge.
Os homens que nunca foram meninos,
des hommes qui n'ont jamais eu le temps d'être des enfants, des fillettes qui semblaient
mulheres,
être nées déjà femmes,
os adultos de 9, 10,
des adultes qui avaient 9, 10, 11 ans et qui travaillaient
à
même le sol dans les cuisines des familles riches,
comme, fez a minha mãe,
comme le fit ma mère.
Os adultos de 9, 10, 11
ou des adultes qui avaient 9, 10, 11 ans qui venaient seuls de l'Alentejo, qui ouvraient à l'aube les cafés de Lisbonne et qui ne pouvaient manger qu'un sandwich par jour, comme le fit mon père. Mais c'est cette réalité qui m'a donné le filet de sécurité dont aujourd'hui je continue de bénéficier, remplaçant ainsi le filet de sécurité que l'État me refuse, chaque jour un peu plus. Je suis née après la Révolution. Mon père était alors un jeune homme de 37 ans qui ne voulait pas avoir d'enfants sous la dictature. Je suis née l'année de la Constitution, et quand je suis née, ce jeune homme de 37 ans était déjà considéré un homme d'âge mûr. Il était certain que la démocratie récemment conquise éloignerait chaque jour un peu plus la réalité que mon père avait connue de celle que j'allais connaître. J'ai toujours eu à manger, j'ai appris à penser, j'ai eu accès à l'école, à la santé, à l'art, aux livres et à la liberté. J'ai appris à chanter que le peuple est celui qui ordonne et qu'il faut arriver ensemble au bout du chemin, unis comme les doigts de la main. Et moi aussi j'ai pensé que on ne pourrait jamais revenir en arrière. Mais aujourd'hui, ce que je comprends, c'est que ce qui a rendu mon père adulte, c'est ce qui m'empêche, moi, de le devenir. La précarité et l'absence de perspective. Un État qui refuse de me donner ce qu'il me doit. Une sécurité sociale qui, au lieu de me soutenir, me poursuit. Je dois payer chaque mois une cotisation très élevée, en contrepartie de quoi je ne bénéficie pas d'indemnité en cas de maladie. Je n'ai pas droit au congé maternité ou à une indemnité en cas de chômage. Et je n'ai pas le moindre espoir un jour de recevoir une retraite un tant soit peu convenable. J'aimerais être mère, mais je ne vois pas bien comment je pourrais faire. Je voudrais travailler tous les jours, mais c'est impossible. Je trouve tout de même quelques prestations qui me permettent de payer mes factures. C'est pourquoi, par les temps qui courent, je me sens aujourd'hui privilégiée. Une jeune privilégiée. Je continue à manger tous les jours. Je continue à avoir un toit et je continue à enchaîner des contrats précaires. Bien que ce soit de plus en plus difficile de se faire payer, mais je continue, 15 ans après avoir commencé à travailler. Alors si je suis jeune, je vous demande, quand on sait qu'un jeune sur deux qui n'a pas immigré est aujourd'hui au chômage, ce sont des jeunes de quel âge ? Ce que j'ai compris en préparant cette intervention, c'est que ce qui a empêché mes parents d'être des jeunes, c'est précisément ce qui me colle à la peau. Jeune. C'est une sorte de miroir inversé. Je ne sais pas s'il sera suffisant de passer au travers, comme Alice. Un jour, il va vraiment falloir le briser.
Johanna Manuel, vous êtes comédienne et vous êtes engagée publiquement contre les politiques d'austérité. Vous avez été signataire du manifeste du peuple portugais contre les politiques antidémocratiques et antipatriotiques. Alors voilà, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du discours que vous avez prononcé ce jour-là ?
Ce discours, en réalité, je peux vous dire que je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il trouve une telle résonance chez les
gens.
J'ai tenté de rendre concret, en fait, un sujet qui est souvent abordé de manière abstraite. Les chiffres, la dette, le chômage, nous ne sommes pas en train de parler de nuages, nous ne sommes pas en train de parler de concepts abstraits, Nous parlons bel et bien de personnes réelles, d'histoires réelles qui commencent et qui se terminent, et qui parfois se terminent de façon tragique. C'est une chose dont on parle très peu au Portugal. On commence tout juste à l'aborder, mais c'est encore un sujet tabou. Le fait est que le pays a connu une augmentation brutale du taux de suicide. D'ailleurs, on a pu observer la même chose en Grèce. C'est une réalité qu'on tente bel et bien de cacher, car il s'agit d'une conséquence concrète de l'austérité qui nous concerne tous. Chaque personne est un monde qui a un début et une fin. Et c'est bien de cela dont nous parlons.
Bon, je suis président de l'association syndicale des professionnels de police. Je continue à faire mon travail au corps d'intervention de la police sécurité publique, mon travail de professionnel de police.
Et alors, Paulo Rodrigues, depuis 2011, il semblerait que le nombre de suicides au Portugal ait augmenté. Est-ce que vous avez des données sur cette question ?
Avant, c'était plutôt dans les grandes villes. En ce moment, on est en train de voir des suicides partout, dans les villages, dans les îles. On pense que le résultat de la crise, parce qu'il y a des familles qui perdent l'emploi, par exemple dans le nord du pays, on avait beaucoup d'entreprises qui donnaient d'emploi presque à toute la famille, des entreprises qu'ils ont fermées. Et alors, évidemment, c'est des cas très difficiles qu'ils arrivent au suicide.
Est-ce que vous sentez que ce climat comme ça, il y a une espèce de tension sociale qui monte ?
On peut dire que toutes les semaines, on a des manifestations. Pratiquement tous les secteurs, soit publics ou même privés, beaucoup de grèves, beaucoup de manifestations. On a plus de conflits entre les policiers et les manifestants, parce que beaucoup de fois, on voit les manifestants agresser les policiers, dire « bon, vous êtes en train de défendre le gouvernement, vous êtes de l'autre côté ». C'est pas vrai, mais parce qu'on est les premiers à recevoir les résultats dramatiques du conflit dans les manifestations. Moi, j'ai un peu peur que les gens ils commencent à progresser dans sa révolte. Ils peuvent même vouloir marquer les 40 ans de la révolution pour faire, je dis pas une révolution, mais faire quelque chose qui marque. On voit beaucoup de gens qui ont fait la révolution, qui étaient militaires, qui savent exactement ce que c'est vivre dans une dictature et dans une démocratie. On commence à voir ces gens parler de la nécessité de faire une nouvelle révolution. Il faut le faire de nouveau parce qu'on commence à vivre aussi dans une dictature. On a des règles pour tout, mais on n'a presque plus de droits. Alors c'est ces messages qu'il faut faire quelque chose.
Alors, au mois de novembre, Paulo Rodrigues, il y a eu une manifestation très importante ici au Portugal. C'était la plus importante manifestation des forces de l'ordre à Lisbonne, devant l'Assemblée de la République. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons de cette journée d'action ?
Le gouvernement a défini un chemin, c'est de réduire les salaires des fonctionnaires publics, toutes les fonctionnaires publics. En ce moment, la réduction, c'est un peu près de 200 euros. C'est beaucoup pour un salaire de 900, 1000 euros. C'est beaucoup. On a des postes de police qui n'ont pas les conditions minimes acceptables pour faire le travail. Il pleuve même dans les locaux. Quand les voitures de police, il faut changer les pneus, faire de la mécanique dans des réparations. Parfois, on n'a pas d'argent pour le faire.
La situation est totalement hors de contrôle. La situation est vraiment hors de contrôle. Je dirais que c'est un moment historique pour le Portugal et pour les mouvements syndicaux au Portugal. C'est la première fois que ça arrive.
En réévoquant cette journée d'action du mois de novembre, en fin de journée, il survient un événement imprévu. Le cordon de sécurité, qui est composé de vos propres collègues, qui jusqu'à présent empêchait les manifestants d'accéder au parvis de l'Assemblée de la République, est franchi. Les manifestants envahissent le parvis de l'Assemblée de la République
Et il chante aussi l'hymne national portugais.
C'était une message de « Regardez, on est des policiers en train de manifester, mais on a la responsabilité de faire la sécurité pour que l'État fonctionne. Il fonctionne bien en démocratie. » C'est pour ça qu'on a voulu chanter l'hymne national. On n'avait pas prévu cet acte symbolique.
Est-ce qu'il y a une confrontation entre les policiers manifestants et vos propres collègues qui étaient chargés d'être faire partie du cordon de sécurité ?
Bon, c'est vrai que les collègues qui avaient la mission de faire la sécurité, ils avaient une mission très très délicate ce jour-là. Ils ont répondu de forme très responsable, étaient très intelligents à la situation parce que ils ont préféré de flexibiliser la sécurité et ne pas entrer en confrontation. On n'a pas eu des polices blessées ni d'une part ni d'autre. Et on n'a pas eu des problèmes d'ordre public dans la manifestation.
Je m'appelle Iris Godinho, j'ai 29 ans. Je travaille et j'étudie la musique. Je vis à Lisbonne et je veux continuer à vivre au Portugal.
Je m'appelle João Tiago Fernandes, j'ai 29 ans. J'habite à Lisbonne et je termine mon doctorat en biotechnologie.
João David Almeida, j'ai 31 ans. Je suis musicien à Lisbonne.
On se retrouve aujourd'hui dans un café, mais on vous a rencontré initialement dans le cadre d'une manifestation, une grande manifestation. Quand on vous a vu, vous aviez une immense banderole sur laquelle il y avait écrit « Eu tenho sonho, quero ser feliz em Portugal ». J'ai un rêve, celui d'être heureux au Portugal. C'était assez frappant comme image, parce que vous étiez à peu près une dizaine de personnes à porter cette grande banderole. Cette formule était écrite aussi à la première personne du singulier. Iris, je crois que vous êtes à l'origine de cette banderole. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité écrire cette phrase ?
Cette phrase est née à une période plutôt critique et compliquée au Portugal. Beaucoup de mes amis partaient à l'étranger et c'était dur pour moi de les voir partir. J'ai décidé que c'était le moment de lutter, de dire que quelque chose ne tournait pas rond, que les gens n'allaient pas bien. Mais je souhaitais participer aux manifestations de façon positive. À l'époque, nous avions beaucoup d'espoir. Et lorsqu'on défilait dans les rues avec cette phrase « J'ai un rêve, celui d'être heureux au Portugal », les personnes nous transmettaient de l'énergie pour continuer.
Cette banderole est née il y a environ 3 ans. À l'époque, il n'y avait pas encore ce phénomène qui est devenu entre-temps dramatique. Le Portugal connaît aujourd'hui les mêmes niveaux d'émigration que dans les années 60, à l'époque où on partait massivement vers la France et vers d'autres pays. Progressivement est née l'idée qui depuis s'est affirmée comme une évidence au sein de la société, selon laquelle le bonheur, du point de vue de la réalisation professionnelle, le fait de récolter les justes fruits de son travail, ce bonheur n'existait pas à l'intérieur de nos frontières. En fait, aucune des personnes de notre groupe n'avait défilé auparavant avec des pancartes ou des banderoles pour participer à une manifestation. Et un jour, on s'est retrouvés là devant un immense tissu blanc, à même le sol, avec des bombes pour écrire le message que nous voulions faire passer. À l'époque, on voulait, comme tout le monde, la chute du gouvernement. Et le fait que cela ne soit toujours pas arrivé, c'est plutôt décourageant.
Beaucoup de mes camarades de faculté sont à l'étranger. Rui est parti en France après son doctorat. Diogo est parti en Abu Dhabi après son doctorat.
Anna, puis vivre pour la Norvège.
Anna est partie vivre en Norvège.
Pedro et Paola sont partis pour le Brésil.
Mon père aussi est au Brésil.
Georges et Maria, tous les deux diplômés d'une grande école, sont partis pour Bruxelles.
Alexandre est en train d'envoyer des CV États-Unis, Singapour, tout ce qui n'est pas pour
c'est le meilleur. Voilà.
Primeiro-Ministro tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O Sr. Deputado Nuno Magalhães sublinhou os resultados das conclusões do último Conselho Europeu quanto ao quadro financeiro multianual. Nós...
As pessoas não se podem manifestar, sobretudo nestas condições.
Les personnes ne peuvent pas se manifester, surtout dans ces conditions.
Peço ao Sr. Primeiro-Ministro que aguarde um pouco para prosseguir.
Obrigado,
je demande à Monsieur le Premier ministre d'attendre un peu avant de reprendre l'intervention.
À l'Assemblée de la République, le 2 février 2013, les activistes du mouvement Keselishe à Troïka, que la Troïka aille se faire voir, interrompent le discours du Premier ministre et se mettent à chanter Grandola, le chant qui a servi de signal à la Révolution.
Je demande aux personnes de se retirer ou de se taire.
Inès Subtil et Nuno Ramos de Almeida sont des membres actifs du groupe Keselishe à Troïka, que la Troïka aille se faire voir.
Notre mode d'action est peut-être un peu différent des autres mouvements. Nous organisons bien sûr des manifestations, mais nous avons surtout utilisé jusqu'à présent l'action directe. Comme nous sommes à la base un petit groupe de personnes et que nous n'avons pas une grande capacité de mobilisation, nous réalisons des actions que les personnes peuvent facilement reproduire. Ça a été notamment le cas quand notre groupe a chanté sur les bandes de l'Assemblée de la République Grandola, Villa Morena, la chanson qui a servi de signal aux militaires au moment de la révolution des œillets en 1974. Manifester au Parlement, c'est absolument interdit. Et nous avons longuement débattu entre nous avant de faire cette action. Ah, mais si c'est interdit, qu'est-ce qu'on va faire ? Et l'idée a surgi, et si on chantait une chanson, et si c'était Grandola, qui s'opposera? Qui osera dire que c'est un délit de chanter la chanson de la Révolution? Le chant de Grandola à l'Assemblée a peut-être été l'action que nous avons le mieux organisée. Elle a été préparée dans le plus grand secret. Et le jour où nous avons réussi à entrer au Parlement, nous nous sommes mis à chanter au moment où le Premier ministre a débuté son intervention. Ce jour-là, nous avons eu la chance que le Premier ministre ait d'abord souri. Et quand il s'est rendu compte qu'il souriait, son visage s'est refermé et il s'est mis à devenir très sérieux. À la télévision, les gens avaient l'impression qu'il se moquait, comme s'il se moquait du chant de la Révolution. Pour nous, il est fondamental de s'assurer qu'il y ait une captation des actions que nous réalisons. Le soir même, des images de notre action à l'Assemblée ont été diffusées sur les chaînes de télévision portugaise. Par la suite, Grandola Villa Morena a été reprise et chantée lors d'une grande manifestation en Espagne, à Madrid. Cette action au Parlement s'est déroulée le 2 février et a été vraiment un superbe coup d'envoi pour la manifestation que nous avons organisée un mois plus tard, le 2 mars 2013. Et qui a été un grand succès, une véritable marée humaine et une des plus importantes manifestations qu'ait connue la démocratie portugaise. Cette manifestation s'est déroulée dans plus de 40 villes à l'intérieur du pays et a même été relayée à l'étranger au travers des communautés d'émigrés qui se sont mobilisées ce jour-là. Cela a eu un fort impact médiatique et d'autres personnes se sont mises à reproduire cette action un peu partout à travers le pays, à l'occasion notamment des déplacements de ministres en province. Le sens de Grandola, c'est que le pouvoir revienne au peuple. Grandola, ville brune, c'est le peuple qui ordonne. Et depuis, on conjugue le verbe Grandola et on s'est mis un peu partout à chanter la Grandola en signe de contestation. Et de fait, notre action a été ainsi démultipliée.
Alors, qui sont les personnes qui ont créé le mouvement? Est-ce que c'était des personnes qui étaient déjà affiliées politiques, enfin affiliées à un parti?
Non. Il y a des personnes qui sont dans le parti, d'autres ne sont pas. Ils sont là parce qu'ils sont
activistes des différents réseaux sociaux avec possibilité de communiquer et mobiliser avec cette réseau-là. Il y a des gens qui travaillent avec féministes, il y a des gens qui travaillent avec des immigrants, il y a des gens qui travaillent avec des ouvriers, il y a des journalistes. Ils facilitent la communication vers des réseaux sociaux.
La vérité est que en Portugal, la société ainda não está.
Au Portugal, les gens ne participent pas de façon très active à la politique. Mais il commence à y avoir des groupes de personnes qui souhaitent participer directement à la démocratie. C'est mon cas en l'occurrence. Je n'appartiens à aucun parti. C'est le cas de plusieurs personnes au sein du mouvement que la Troïka aille se faire voir. Des études sont sorties récemment et indiquent que 98% des Portugais sont contre l'austérité. Il est clair que les personnes sont contre l'austérité, contre le gouvernement, contre la Troïka. Mais avec la crise, la tendance est au repli sur soi et à l'individualisme. Actuellement, nous sommes face à un discours unique, répété à l'envi par le gouvernement. L'important pour nous, c'est d'ouvrir un espace dans lequel puissent s'exprimer les alternatives, car il en existe plusieurs, et de provoquer une prise de conscience. Après, ce sera aux gens de choisir.
Nous ne voulons pas avoir des alternatives politiques. Nous ne sommes pas une alternative politique au gouvernement. Nous ne sommes pas un parti politique. Nous sommes simplement des activistes qui veulent qui fonctionnent les mécanismes de la démocratie.
En l'état actuel des choses, comment peut venir le changement au Portugal ?
Cette année, nous allons fêter le 40e anniversaire de la Révolution des œillets. C'est peut-être le moment idéal pour faire revivre l'exigence de liberté et de démocratie. Nous, au sein du mouvement que la Troïka aille se faire voir, nous pouvons tenter d'être les catalyseurs du changement. Mais dans ce moment obscur de notre histoire, le déclic peut arriver n'importe quand. Et cette année, c'est peut-être une bonne année pour le déclic.
Au Portugal, les politiques d'austérité s'enracinent. Les grandes mobilisations nationales de 2012 et de 2013 semblent s'essouffler. Des dockers aux militaires, en passant par les retraités, on assiste maintenant chaque semaine à des manifestations sectorielles. Joana Manuel, est-ce que vous pensez qu'il y a une certaine tendance actuellement à la résignation ou au contraire qu'il y a un réveil des consciences qui pourrait annoncer quelque chose d'autre ?
J'aimerais pouvoir répondre à cette question. Cela dépend des jours, à vrai dire. Il y a des jours où j'ai le sentiment que oui, il y a quelque chose de très profond qui est en train de changer. Et d'autres jours où je ne le sens pas vraiment. Au début, je voyais énormément de jeunes dans les manifestations. Et puis avec le temps, j'en ai vu de moins en moins. C'est vrai qu'il y a tellement de jeunes qui partent que forcément, ils ne peuvent pas être présents dans les manifestations. Et ça aussi, c'est une victoire de l'austérité. En nous expulsant de notre propre pays, nous ne sommes plus en mesure de le défendre. En fait, je vois beaucoup de jeunes dans les manifestations. Mais il s'agit de jeunes qui sont encore trop jeunes pour émigrer et qui défilent parfois aux côtés de leurs parents et de leurs grands-parents. Je me souviens lors d'une manifestation récente organisée par Casse-Lixa-Troïka, un de mes amis a photographié un garçon d'une douzaine d'années avec son grand-père. Le grand-père disait qu'il se battait pour le futur de son petit-fils et lui, il disait qu'il était là pour le présent de son grand-père. Maintenant, je pense aussi que nous avons connu avec la dictature, pendant de très longues décennies, une répression si forte qu'elle a fini par être intériorisée. Il y a beaucoup de peur. Il y a quelques années, on a demandé à Paola Rego pourquoi elle ne travaillait pas au Portugal et elle a répondu qu'elle n'y parvenait pas. Son interlocuteur a pensé qu'elle n'y arrivait pas parce qu'elle n'avait pas le temps, parce qu'elle avait trop de sollicitations. Elle lui a dit « Non, moi je n'y arrive pas, il n'y a rien qui sort, je n'arrive pas à créer. » Et l'expression qu'elle a utilisée, je ne l'oublierai jamais, parce que nous sommes tartinés de peur, comme si la peur pouvait être du beurre, de l'huile capable de nous déformer. Je m'excuse, mais bon, c'est notre troupe de théâtre qui est en train de répéter à l'arrière. Heureusement, le théâtre existe encore. Je pense qu'il existe bien sûr d'autres formes de lutte dans lesquelles il est bon de s'investir. Mais je continue à penser que les manifestations sont très importantes, car le jour où nous aurons peur de descendre dans la rue pour dire ce que nous pensons, pour crier ce que nous pensons, alors cela sera très difficile de faire changer les choses.
Quand on sort dans une manifestation aujourd'hui à Lisbonne, on voit plusieurs types de banderoles. C'est parfois le gouvernement qui est accusé, c'est parfois Angela Merkel, c'est parfois le FMI, la Troïka bien sûr. Mais quel est l'ennemi contre lequel on lutte aujourd'hui ?
Probablement contre tous ces ennemis. La grande finance sans visage qui a réussi à nous convaincre que nous sommes coupables de quelque chose parce que la notion de dette a beaucoup à voir avec la culpabilité. Non, mais vraiment, quand on pense que d'un seul coup, nous avons perdu notre souveraineté de façon complètement antidémocratique, nous avons une commission européenne pour laquelle nous ne votons pas, donc nous avons en ce moment une superstructure et un super pouvoir européen qui n'est pas démocratique et qui est complètement dépendant des marchés. Je suis intimement convaincue que la politique doit revenir aux personnes. Alors si je devais choisir un ennemi contre lequel lutter, qui en réalité ne serait pas un ennemi, mais plutôt quelque chose à transformer, alors peut-être que si je devais choisir une cible en priorité en ce moment, ce serait probablement la Commission européenne. Ou l'Union européenne, qui nous impose en ce moment des devoirs sans contrepartie en termes de droits. Nous assistons à un appauvrissement de la périphérie de l'Europe pour que l'Allemagne puisse parvenir à obtenir des taux d'intérêt négatifs. C'est immoral, anti-éthique et cela n'a aucun sens. Et non, je ne peux pas accepter que dans mon entourage, il y ait des personnes qui crèvent de faim, qui perdent leur logement, leur droit à la santé, leur droit aux services publics, qui assistent à la destruction de l'enseignement, qui voient leur fils quitter le pays ou se suicider, pour que l'Allemagne puisse avoir une économie toujours plus forte. Non. Pour moi, c'est très clair. C'est inacceptable.
É justo, é injusto e vem com agenda de embuste. Custo custar, explorar a gente. A todo custo deixar o rico ainda mais rico. Deixar o povo sem um tusto. É isto a sair do euro para que a gente se assuste. É justo a todo custo, é receita para a fome. No prato chefe, troika só o capital come. Temperada, rigor com o corte na despesa. Deixa-nos a cada dia com menos nutrientes na mesa. É o corte no serviço público, o aumento do imposto. Imposto por um monstro que insiste em não ter rosto, mas ele tem rosto. BCE, Banco Mundial, OMC, ele tem rosto, América Maria, só na Jerónimo, BCP, ele tem rosto, Sócrates, Cavaco, Passo, Portas, Gaspar, só insiste em não ser a Grécia, porque tens medo de enfrentar.
Vous, Manuel Alegre, vous avez été candidat à la présidentielle.
Oui, en 2006, j'ai été un candidat indépendant au nom d'un mouvement de citoyens. La deuxième fois, j'ai été appuyé par le Parti Socialiste et par le Bloc de Gauche. Mais c'était déjà le moment où l'austérité, la troïka, c'était pas facile. Je pense que la situation au Portugal, comme en Espagne, est inséparable de la situation en Europe, du domaine du néolibéralisme, du pouvoir financier. Ça commence à Maastricht, à une constitution économique non écrite qui consacre le néolibéralisme. Et l'austérité fait partie d'une stratégie globale qui vise libérer l'économie de l'intervention de l'État, profiter de la crise pour démolir les droits sociaux, les services publics, dévaloriser le travail. C'est pareil un peu partout. Ici, nous avons été mis sur le programme de la Troïka et ça a été profité par la droite qui a gagné les élections pour appliquer son propre programme idéologique. Le gouvernement est plus troïkiste que la Troïka elle-même. Il a eu de grandes manifestations à Lisbonne, sans résultat. Jamais vu un gouvernement comme ça et un président comme ça, complètement insensible. Et les gens tirent la conséquence que ça vaut pas la peine de, c'est pas la peine de descendre dans la rue parce que c'est pas la peine. Je me suis battu contre la dictature, je me souviens très bien, on faisait des manifestations, il avait la répression. On arrêtait les gens, on torturait, on tuait même. Mais parfois, ils les reculaient. Ces types-là, parce qu'ils ont cette légitimité de l'élection, quoi, qu'ils ont un pouvoir absolu. Et puis, ce que veut aujourd'hui l'Europe, c'est placer le pouvoir du marché au-dessus du pouvoir démocratique. Parce qu'on peut résister à une armée qui vient. Bon, on peut résister à une dictature. On connaît les visages, les gens, une police politique qui sont là. Mais les marchés, qu'est-ce que c'est que ça? Comment les contrôler? Donc il faut, à mon avis, pour améliorer les choses, changer. Pas possible de changer quoi que ce soit sans changer l'Europe. L'Europe, actuellement, est une mystification absolue. Les traités déchirés, pas de solidarité entre des États égaux et souverains. Et c'est l'Allemagne qui commande. On a eu beaucoup d'espoir dans l'élection de François Hollande, mais malheureusement, on ne peut compter que sur nous, les pays du Sud. En France, en Italie, dans d'autres pays, l'extrême droite commence à gagner des élections du terrain un peu partout. La gauche classique est sans une alternative, très claire, ne s'oppose pas. Le Parti socialiste, que bien elle est au pouvoir, il fait la même politique, hein, capitule, il négocie. Je dois le dire, je suis socialiste, un homme de gauche. Cela a été fait avec l'abdication des socialistes. Donc c'est une situation comme j'ai jamais eue. Il y a beaucoup de chômage, beaucoup de précarité. Les gens n'ont pas une perspective d'avenir. Nous avons vécu la dictature et ça, mais on avait cette perspective d'avenir, un espoir de changement. Les gens, maintenant, on est un peu bloqués. Et ce genre de démocratie, qui est très vidée de sa substance, a des risques parce que les gens, ou bien, ils pensent qu'on peut changer par les élections ou par d'autres moyens. Mais ça peut être très dangereux parce qu'il y a une limite à tout. On a vu ce dernier jour les prises de position des militaires qui sont un avertissement très, très sérieux, très sérieux. Et c'est le 40e anniversaire du 25 avril. Ça peut être une motivation, une inspiration parce que le 25 avril n'est pas mort. Ce sentiment n'est pas mort dans les couches populaires. Ce n'est pas mort. Bon, ça a été un grand espoir, ça a été une fête extraordinaire. Et puis, nous avons créé une démocratie très avancée, une démocratie sociale. Toutes les années, moi, ça m'étonne. Toujours, les gens continuent à venir par des milliers dans la rue chaque 25 avril. Mais cette année, ça peut être plus fort. On commence à ressentir que tout peut se perdre. On a déjà perdu beaucoup de choses.
C'était 25 d'avril simple, 25 avril toujours, avec la participation de Teresa de Souza, Vasco Lorenzo, Maria do Rosario Gama, Joana Manuel, Paolo Rodriguez, Irish Godinho, Juan Thiago Fernandez, Juan David Almeida, Inés Subtil, Nuno Ramos de Almeida, Manuel Alegre. Traduction lue par Amélie Jallier, Thierry Beauchamp, Véronique Reberotte, Jérôme Moreau-Marron, Inès De Bruyne. Remerciements: Emmanuel Boulois, Françoise Cabane, Margarida Silva, Pedro Cerejo, Juan Baia, Joana Cabral, Olivier Blanc, Patricia Romain, Carlos Renato, Nuno Pacheco, Laurent Rossi, André Pestana et Sylvia Bastos. Prise de son, Georges Thau, Olivier Dupré.
Mixage, Pierre Mine. Réalisation, Anne Fleury. Un documentaire d'Elsa Cornevin.
Mas a cada verme, os dias maus vão acabar. O pão tratar que não se teme, se toda a gente se juntar.
LSD, c'est fini pour aujourd'hui, et si vous voulez rester à Lisbonne, bibliographie, liens, nous podcaster pour l'exil ou nous réécouter au Cap-Vert, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook à la page France Culture Documentaire et nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc. Demain, troisième épisode, Les rêves d'exil de José Maria Branco.